Bonjour Alain, vous êtes directeur général délégué de Claresco Finance. Oui, c'est un petit peu la surprise du chef, là. BMW qui cède 7% et donc c'est pour cela que Renault ou encore Stellantis cède plus de 2% ce matin à l'ouverture. Secteur automobile, bien sûr, qui est en première ligne face à la montée des prix des matières premières et surtout le moral des consommateurs qui est déprimé, notamment en Europe.
Oui, bonjour Étienne. Sur l'automobile, c'est vrai que c'est un secteur qui a bénéficié ces derniers jours d'un rebond suite à la baisse des prix du pétrole, évidemment. Mais le warning de BMW hier soir rappelle la dure réalité. Oui, c'est difficile sur la plupart des marchés, mais il y a un marché où c'est particulièrement difficile, c'est la Chine, qui est maintenant le grand marché mondial. On est autour d'un marché qui est de 90 millions de véhicules, il y en a 30 qui sont en Chine. Et en fait, aujourd'hui, le marché est en nette baisse. Ça fait quelques trimestres que c'est le cas et ça ne s'améliore pas. Et il se trouve que BMW est quand même une des sociétés européennes qui a de belles positions en Chine. Donc forcément, ça semble être quand même une des principales raisons de la révision, puisque il faut rappeler que le marché domestique en Chine, il est attendu à moins 14 maintenant en 2026, qui est quand même très très bas, c'est 4 millions de véhicules en moins. Donc forcément, ça baisse beaucoup. Clairement, nous, l'automobile, on a toujours été très 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 prudent. Et ce warning, c'est quand même des raisons qui sont pas spécifiques à BMW. C'est quand même plutôt le marché qui est invoqué. Donc on peut craindre que ça se répercute sur d'autres sociétés dans les annonces à venir. Donc c'est pas terrible pour l'automobile, en effet, qui reste un métier compliqué.
Moins 7% pour BMW, moins 3% pour Mercedes ou encore 2% de baisse ce matin pour Volkswagen. Et donc tout cela plombe très largement le DAX ce matin à Francfort. Dans l'actualité des entreprises, si on regarde un petit peu ce qui se passe à Paris, il y a une autre baisse flagrante ce matin. C'est Medincell, c'est une biotech qui fait partie du SBF 120. Le titre recule de 13%. Hier soir, le groupe a publié ses résultats. Alors les marchés regardent surtout l'avancement des projets, notamment de phase 1, de phase 2, etc. bien sûr, mais aussi et surtout les résultats. Qu'est-ce qui cloche un petit peu là ? Résultat opérationnel, perte de 20 millions, trésorerie 84 millions.
Oui, alors il faut faire attention parce que dans Medincell, il y a deux choses dans le chiffre d'affaires et les résultats. C'est d'une part, il y a les royalties qui viennent des médicaments qui sont vendus. Le premier, c'est ce qu'on appelle Uzedy, qui est une injection mensuelle d'un médicament qui s'appelle la risperidone, qui est dans le traitement de la schizophrénie. Ils ont un partenariat avec Teva. Ce médicament monte en puissance. Leur code part de royalties en 2026 était de 9,3 millions. Donc ça, c'était plutôt, ça confirme la bonne progression de ce médicament. En revanche, le revenu global, lui, dépend de la tombée ou non de royalties, pardon, de milestones liés à l'atteinte de certains seuils de chiffre d'affaires. Il y en avait eu en 2024-25, là, il y en a un petit peu moins cette année. C'est pas en soi significatif. Quant au résultat opérationnel, il est du coup forcément un peu plus bas qu'anticipé, d'autant plus que les charges d'exploitation ont pas mal augmenté. Mais pourquoi ? Il faut bien rappeler que cette entreprise de biotechnologie, en fait, elle a sa technologie de biotech, c'est d'avoir des médicaments qui sont déjà connus, mais qu'on met dans des capsules injectables en sous-cutanée qui permettent de libérer de manière prolongée le principe actif du médicament sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec une seule injection. Donc c'est le cas avec leur médicament Uzedy. Mais il y en a un deuxième très important qui s'appelle l'olanzapine, à libération prolongée, qui est destiné à des troubles plus sévères dans la schizophrénie. Et là, ils viennent d'avoir fin mai l'autorisation en Europe de commercialisation et la commercialisation, l'autorisation est aussi attendue en fin d'année par la FDA aux États-Unis. Et donc, ces deux médicaments combinés permettraient de couvrir plus des trois quarts de la population qui atteint de schizophrénie. Donc, ça veut dire là un gros potentiel de chiffre d'affaires. Et donc, dans l'attente de la montée en puissance, notamment de l'olanzapine, le groupe a fait des investissements commerciaux, etc. Donc, c'est ça qui creuse un peu la perte cette année. Donc, d'une certaine façon, un chiffre d'affaires un peu moindre qu'attendu parce qu'il y a moins de milestones et un peu plus de charges parce qu'on se prépare au lancement de l'olanzapine, c'est pas en soi de mauvaises nouvelles. Bien entendu, le marché s'attendait un peu plus aujourd'hui, donc c'est pour ça que le titre baisse. Mais les fondamentaux sont quand même bons. Les ventes d'Uzedy progressent rapidement avec Teva. Et le deuxième médicament, qui est a priori encore plus prometteur, a une roadmap qui se déroule bien, puisqu'il est donc autorisé en Europe depuis fin mai, et probablement aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Donc je dirais les fondamentaux restent tout à fait en ligne. Faut voir que c'est une société où à horizon 2030, les analystes estime que la société pourrait générer 300 millions de chiffre d'affaires et 200 millions d'EBITDA, rien qu'avec ces deux médicaments qui atteindraient leur peak sales à ce moment-là.
Moins 12%.
Donc on reste constructif.
Sachant que le titre a connu un parcours spectaculaire ces dernières années, ne serait-ce que sur les 12 derniers mois, c'est plus 80%. Aujourd'hui, c'est une biotech qui affiche plus d'1 milliard d'euros de capitalisation boursière. faut pas oublier le beau parcours, hein, bien sûr, Alain.
Tout à fait, oui, oui. Non, mais là, c'est juste le chiffre qui est un peu en dessous des attentes, mais il faut bien distinguer dans le chiffre d'affaires et les résultats ce qui vient des revenus récurrents, donc les royalties du médicament Uzedy, et ce qui est plus variable, c'est-à-dire les milestones reçus, et ça peut varier d'un trimestre à l'autre.
Bon, et puis un dernier mot quand même de SpaceX, comment ne pas faire l'impasse sur quand même un titre qui a pris 50% depuis le prix d'introduction en bourse, hein, c'était $135, on était au-delà des $200 hier soir à la clôture en séance. Quand même, on a SpaceX qui est passé devant Microsoft en termes de capitalisation boursière, enfin c'est juste dingue ce qui est en train de se passer.
Ouais, ça mérite un petit détour, hein. Donc cette société introduite en bourse, c'est la plus impressionnante de l'histoire des marchés, elle a levé $75 milliards en échange de quoi 7,5% du capital constitué d'actions A. Il faut rappeler que ça fait un peu plus de 7 milliards d'actions cotées, mais il y a en plus 6 milliards d'actions B non cotées détenues par les fondateurs avec des droits préférentiels vis-à-vis des actions A. Donc en réalité, ce n'est que 4% des droits économiques qui ont été introduits pour une valeur sous-jacente d'un trillion 7, et comme le titre a pris 50%, et en supposant que les actions B valent au moins autant, on serait donc sur une capitalisation de 2,6 trillions. Pourquoi ça monte? D'abord, c'était sur souscrit 4 fois. Les deux banques introductrices, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ont fait chacune $100 millions. Le titre s'est arraché en bourse. Bon, ce que je trouve préoccupant, en fait, fondamentalement, c'est que tout le narratif autour de l'introduction en bourse n'est pas de combien ça vaut, mais tout le monde parle des flux, c'est-à-dire l'anticipation dans l'immédiat de forts flux acheteurs, alors que la société va rentrer prématurément dans l'indice Nasdaq. En plus, ils vont considérer son flottant à 20%, alors que la réalité n'est qu'à 7,5 voire 4. Donc, ça crée évidemment beaucoup de demandes par rapport à pas beaucoup de titres disponibles. Elle va ensuite rentrer dans l'indice S&P 500. Mais faut attention, parce qu'au bout de 2 mois, la société pourrait subir des flux vendeurs d'employés devenus multimillionnaires et qui vont être progressivement autorisés à vendre leurs actions. Alors, c'est entre la publication des premiers résultats dans 2-3 mois. 20% des titres deviennent ses cibles, augmenter à 30 si le titre a monté 30%, on y est déjà. Et ensuite, il y aura des tranches intermédiaires jusqu'à une libération complète au bout de 6 mois. Donc, il pourrait y avoir un fort retour de papier entre 2 et 6 mois, donc attention. Pendant ce temps-là, personne ne s'interroge sérieusement sur la valorisation. Alors, de quoi parle-t-on? C'est une société qui a fait $19 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, avec 6,6 milliards d'EBITDA ajusté, mais quand même une perte de 5 milliards. Alors, il y a 3 activités. Les fusées, $4 milliards, une légère perte. Là, personne ne s'attend à ce que ça explose, que ça se multiplie par 10. En gros, les attentes sont peut-être que ça double d'ici 2030. Mais c'est quand même un point important parce que les fusées, c'est ce qui permet d'envoyer les satellites. Donc, s'ils sont bons ou pas, c'est ça qui va aussi valider la compétitivité du réseau Starlink. Alors, la deuxième partie de la fusée, si on peut dire, c'est évidemment la constellation Starlink. 9600 satellites, l'unique au monde, $11 milliards de chiffre d'affaires en 2025, $4 milliards de résultats d'exploitation, mais surtout le nombre d'abonnés double tous les ans depuis 2 ans. Donc si on prolonge la courbe, on peut aller très loin. Alors pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait, avec Starlink, pour le prix d'une box, on peut avoir un internet et un téléphone correct, bon, pas du niveau fibre, mais quand même pas mal, là où ça serait trop coûteux. Alors c'est forcément le cas au milieu des océans, mais même en France, il y a pas mal d'endroits où il y a des gens qui prennent Starlink, parce que tirer 2 km de fibre, c'est très cher. Donc ça engendre des espérances énormes, évidemment. Pour Goldman Sachs, Starlink pourrait atteindre $144 milliards en 2030. Certains vont même jusqu'à $300 milliards en 2035. La vraie question, c'est est-ce que ça va prendre une part significative des télécoms mondiales, à 300, on sera à 15%, ou est-ce que ça sera juste le grand acteur du satellitaire, qui resterait un marché plus de niche? Et dans ce cas-là, on serait plutôt sur quelques dizaines de milliards de chiffre d'affaires, avec un tiers de part de marché, sachant que Amazon est en train de monter son propre réseau et puis les Chinois aussi auront leur propre réseau bientôt. Donc tout ça fait qu'il y a des attentes très variables. Et puis le dernier point, c'est l'IA. Et là, je pense que c'est ce qu'il y a de plus problématique parce que là, ils investissent beaucoup pour avoir leur propre IA. Peut-être un jour dans l'espace avec des data centers, mais ça c'est très très lointain. En attendant, Goldman Sachs et Morgan Stanley, ils voient entre 200 et $300 milliards de chiffre d'affaires dans ce domaine en 2030. Là, ça me paraît très très ambitieux compte tenu des incertitudes du marché. Et puis, pour l'IA, il y a des investissements colossaux. C'est-à-dire que l'année dernière, pour un chiffre d'affaires de 4 milliards, ils ont eu 6 milliards de pertes. Et aujourd'hui, c'est le cœur des investissements, c'est effectivement acheter des data centers, etc. Et on voit les autres grands concurrents, en fait, pour être présents dans l'IA, ils investissent des sommes, des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars. Rappelons que Starlink avait 30 milliards de dettes à fin 2026, avant l'introduction en bourse, et qu'ils ont déjà prévu plus de 30 milliards d'investissements en 2026. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, la société ne sera plus cash positif déjà. Donc tout ça fait que, sur la valorisation, évidemment, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais admettons qu'il serait à $250 milliards en 2030 avec $100 milliards d'EBITDA, on serait déjà sur 10 fois le chiffre d'affaires, 27 fois l'EBITDA, ce qui semble très élevé, sachant qu'il y a la moitié de ça qui vient de l'IA où on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire. Donc, de manière plus réaliste, on serait aujourd'hui sur la base d'un CA 2026 qui est plus proche, disons, à 30-35 milliards, on serait à 80 fois les ventes. Ça paraît irréel. Alors, la confiance des marchés dans la capacité d'innovation d'Elon Musk est évidemment très forte, mais des histoires comme Tesla ont montré que la croissance peut finir par plafonner quand l'innovation devient moins différenciante. Donc moi, je n'achète pas sur ces niveaux, c'est sûr.
Merci beaucoup, Alain Dubrulle, pour nous avoir partagé votre analyse ce matin, que ce soit sur SpaceX, sur Medincell ou encore sur le secteur automobile. Et donc SpaceX, hein, qui était encore en hausse hier de 4,8% à la clôture, au-delà des 200 dollars, 201 dollars, et un gain de quasi 50% par rapport à vendredi.